Et dans ce journal, on revient sur cette grève dans les dépôts pétroliers. On parle aussi de chiffres avec la réforme fiscale et ce déficit pour ATN. Et on fait un tour au toit Motu. Le journal de 7h, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour à toutes et à tous.
Et début de grève donc dans les dépôts pétroliers.
Oui, la CSIP avait déposé un préavis en fin de semaine dernière. Eh bien, elle n'a pas signé de protocole d'accord hier, malgré un nouveau round de négociations. Les 9 points du cahier de revendication parlent notamment de revalorisation des salaires et d'indemnités de départ à la retraite. Le secrétaire général du syndicat, Cyril Le Gaillic, évoque un mouvement qui touchera la majorité des employés, la majorité des dépôts de carburant aussi, mais qui se fera sans blocage, pas de perturbation à la pompe à prévoir donc, du moins pas ce jeudi.
À Tarahoy, la réforme fiscale est passée au vote.
Oui, votée, mais sans les voix de l'opposition. Le groupe Tapura et les élus Aereia Polinezia ont dénoncé d'une seule voix la procédure imposée par le président de l'Assemblée sur cette loi du pays qui avait créé des tensions au sein de la majorité lors de son passage en commission. Tony Géraud aurait, d'après les autonomistes, violé le règlement intérieur de Tarahoy pour présenter en séance plénière un texte de compromis négocié entre l'exécutif et l'Assemblée. L'opposition s'est donc abstenue, se réserve le droit de former un recours contre la réforme adoptée et pointe que malgré les apparences, la majorité bleu ciel reste fracturée.
Après tous ces retournements de situation et une guerre des chefs qui atteint son paroxysme, la majorité apparaît plus fragile qu'on ne pouvait l'imaginer. Et vous avez beau nier l'évidence, ce que vous qualifiez de débat démocratique, nous n'y voyons que les ferments d'une profonde instabilité et d'une atteinte grave à la confiance générale. Et lorsque la confiance n'est plus au rendez-vous, la machine se grippe, tout simplement.
Voilà, vous avez entendu Tepuara Oriteri Tahi qui a qualifié la rivalité entre Tony Géraud et Moete Brotherson de telenovelas. Le président du pays, en retour, a rappelé que les divisions, alliances et trahisons des oranges, rouges et verts avaient eux tout d'une super production hollywoodienne. Pour le chef du gouvernement, l'incompréhension des autonomistes sur les débats actuels vient d'une culture politique différente de celle des indépendantistes.
Vous êtes d'une école où quand on n'est pas d'accord, on s'en va. On crée son parti, casse les meubles. Nous, nous sommes d'une école de la discussion. Discussion qui peut être sportive, discussion où on se dit les choses, discussion où parfois on sort de la salle un peu bougon, mais on revient, et puis on finit par trouver un accord. Donc là où vous dites Tony 1, Moete 0, non, j'ai envie de dire démocratie 1, pensée unique 0.
Sur le fond, la séance d'hier a aussi donné lieu à des débats. Le gouvernement et sa réforme fiscale ont été de nouveau accusés, alors pêle-mêle, de grignoter les réserves budgétaires de la précédente mandature, de ne pas appliquer le programme des territoriales, de mettre des bâtons dans les roues de la croissance, du développement touristique ou du BTP. Le ministre des Finances, Teveiti Pomare, s'est lui montré plus combatif que dans ses premiers mois de mandat, en rappelant à plusieurs reprises que les grandes réformes fiscales, sociales et économiques seraient travaillées et concertées dans le courant de l'année prochaine. Les élus de Tarahoy ont débattu jusqu'à très tard hier soir, car la réforme fiscale n'était que le premier pavé de cette session de deux jours. Le budget 2024 du pays doit être adopté aujourd'hui.
Et un chiffre maintenant, 4,8 milliards de francs.
Oui, c'est le déficit prévu par ATN pour son exercice 2023. L'estimation a été mise sur la table du conseil d'administration mardi après-midi et Michel Monvoisin était sur notre plateau hier pour la préciser. Alors d'après le PDG, qui malgré les rumeurs reste aux manettes de la compagnie, c'est avant tout le coût des carburants qui pèse sur les résultats. 10 milliards de francs de charges en 2023 contre seulement 7 en 2019. Et dans le même temps, le prix du billet n'a pas augmenté et même légèrement baissé du fait d'une concurrence exacerbée sur les lignes États-Unis pas pétées. Air Tahiti Nui pourtant peut se réjouir d'un bon taux de remplissage environ 77% et d'une place de leader confortée sur le marché. Mais ça ne suffit pas, la desserte est structurellement déficitaire, explique le responsable.
Ça c'est commun à toutes les compagnies aériennes, mais la destination Polynésie aujourd'hui a une offre en siège de plus d'un million de sièges offerts et elle n'est pas en adéquation avec les capacités réceptives du pays. On est parti pour faire entre 250 et 260 000 touristes, qui est un dernier record, et les Polynésiens, à peu près 50 000 Polynésiens qui voyagent, il y a un million de sièges. Donc vous comprenez bien que mathématiquement, il n'y a pas possibilité de remplir les avions, vu qu'en face, on n'a pas la capacité réceptive.
Il faut donc construire des hôtels, des pensions, des Airbnb. Voilà les préconisations du PDG, qui précise tout de même que ces 4,8 milliards de déficit cachent aussi une certaine prudence budgétaire. 1,7 milliard ont été inscrits en provision pour des opérations de maintenance avancée des moteurs des 4 Dreamliners de la compagnie.
Le motoriste, sur tous les 787 dans le monde, a émis ce qu'on appelle un service de bulletin, c'est-à-dire il a demandé d'anticiper des déposes moteurs et des révisions moteurs. C'est-à-dire que ce qu'on nous avait étalé, nous, sur 2025-2026, il faut le faire en 2024. Et donc, effectivement, c'est un surcoût qu'on a provisionné par prudence, de l'ordre de 1,7 milliard, mais les discussions sont en cours, parce que ce n'est pas de notre faute. Alors, discuter avec celui qui va faire le travail, dans la société de maintenance qui va faire le travail, avec General Electric, ce que nous, on va réellement payer, ce qui va être pris en charge par les uns et par les autres, par prudence, en approvisionner.
Michel Monvoisin, qui veut tout de même rassurer sur la santé d'Air Tahiti Nui. La compagnie avait bénéficié pendant la crise Covid de 8 milliards de francs de subventions du pays, de 2 milliards d'aides d'État et de 8 autres milliards de prêts garantis par l'État. Bref, ATN a de quoi absorber les déficits de 2023 et éventuellement ceux de 2024. Difficile pourtant de dater un retour à l'équilibre, ce qui soulève des questions dans la classe politique. Faudra-t-il que le pays, actionnaire à 85% de la société, sorte de nouveau le chéquier pour sauver la compagnie au tiaré ?
On n'en est pas là, mais il y a plein de solutions après. Hein. Il y a l'ouverture du capital, il y a effectivement une augmentation de capital, il y a des subventions, il y a pléthore de solutions. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, bien heureusement. Mais bon, le moment venu, effectivement, les discussions auront probablement lieu. Aujourd'hui, 2023 sera absorbé, 2024 aussi, mais bon, à un moment donné, effectivement, il y aura une stratégie à mettre en place pour le futur, parce qu'on ne peut pas décemment continuer à vendre des billets d'avion entre Los Angeles à Papété au prix d'un Paris-Nice. À un moment donné, il faut le comprendre.
Michel Monvoisin, le PDG d'ATN, qui répondait à Charles Irénée. Une interview à retrouver sur radio1.pf.
Et on suit l'affaire de l'incendie de l'ex-méridien à Punaoya.
Oui, cet incendie qui a ravagé le restaurant annexe de l'ancien méridien et son bar. Une enquête a été ouverte par le parquet. Alors hier, les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie, qui étaient soutenus par un expert incendie privé, se sont rendus sur les lieux pour tenter de trouver d'éventuelles explications. Après plus d'une heure d'inspection et de nombreux supposition, beaucoup de zones d'ombre demeurent. Alors l'heure de départ du brasier, mais aussi la localisation de son foyer d'origine ou encore son caractère criminel ou non, tout ça reste des questions en suspens. L'expert incendie semble pencher pour un incident électrique, une cause qui représente selon lui 95% des incendies au Fénois, ce qui est contraire à l'avis des agents de la gendarmerie qui évoquent davantage une cause criminelle. Pour Vincent Dubois, le directeur du groupe Moana Nui, qui avait été choisi en juillet dernier pour reprendre les murs, c'est nécessairement une intervention humaine qui est à l'origine de l'incident, puisqu'un audit du site et de ses installations électriques justement avait été mené ces dernières semaines. Cet incendie qui aura forcément un impact sur les plans du groupe Moana Nui, qui va donc devoir repenser l'espace alors qu'il était seulement prévu de rafraîchir la zone pour une ouverture qui devait être prévue avant les Jeux Olympiques de juillet. L'enquête se poursuit et les agents évoquent d'ores et déjà le contrôle du tableau électrique de l'ancien hôtel, mais aussi la nécessité d'avoir une vue aérienne du site.
Et on vous reparle du Ping Tai Rong.
Oui, on aurait presque oublié ce bateau de pêche de 40 mètres qui s'était échoué, rappelez-vous, sur l'atoll d'Anua Nurunga en juillet 2021. L'épave avait été retirée l'année suivante, des procédures judiciaires avaient été lancées contre l'armateur chinois, un autre de ses navires avait par exemple été saisi et le propriétaire avait dû s'acquitter d'une caution de 150 millions pour le retrouver. Bref, le dossier avait suivi son cours, mais on avait presque oublié de se poser une question importante. Pourquoi le Ping Tai Rong s'était-il échoué ? Eh bien, Bureau est venu répondre à cette question, le BEA Mer. C'est le bureau d'enquête sur les événements de mer qui a publié un rapport d'une trentaine de pages sur le sujet. Et alors, qu'est-ce qu'on y apprend, Charles Irénée ?
On y apprend surtout que le navire de pêche n'avait pas mis toutes les chances de son côté pour éviter les accidents. D'après le BEA, le radar de ce bateau de 40 mètres était hors service depuis plusieurs mois lors de l'accident. Un radar pourtant obligatoire pour ce type d'embarcation. Le Ping Tai Rong naviguait donc avec des cartes électroniques et visiblement, elles ont été mal utilisées. Les marins de quart ce soir-là ont fixé une trajectoire du navire en regardant une carte à petite échelle sur laquelle il était impossible de distinguer des bandes de terre comme celle de l'atoll d'Anua Nurunga. Ont-ils eu la flemme de zoomer ? Plutôt un problème de formation maritime, relève le BEA qui rappelle que la Chine n'a pas signé toutes les conventions internationales en la matière. L'autre problème qu'il y a eu à bord, c'est la communication au sein de l'équipage, d'abord avec une organisation rigide qui a empêché la prise d'initiative, et puis avec la compagnie aussi. Un navire de cette taille est normalement en contact permanent avec son armateur. Dans le cas du Ping Tai Rong, la panne de radar n'avait même pas été signalée depuis 3 mois, Valdemar.
Voilà donc ce rapport du bureau d'enquête sur les événements de mer qui recommande donc du changement sur l'organisation de l'armement, mais aussi sur la qualification des officiers ou encore sur la traduction des documents de bord en chinois. Certains étaient en anglais, mais c'est une langue que personne à bord du Ping Tai Rong ne savait parler.
Et enfin, nouveaux espoirs dans l'affaire JPK.
Oui, les proches de Jean-Pascal Courault, l'ancien journaliste disparu le 15 décembre 1997 à l'âge de 37 ans, ont rappelé hier par communiqué qu'ils étaient toujours dans l'attente d'un procès. À quelques jours du 26 26e anniversaire de cette disparition. Il s'agissait d'interpeller la justice et notamment le nouveau juge d'instruction arrivé à Papeete en juillet, qui est désormais en charge du dossier. Pour rappel, plusieurs personnes, notamment Miri Tatarata, Francis Tain et des anciens membres du GIP, sont toujours mis en examen dans ce dossier. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. On se retrouve à 7h30 pour la revue de presse et puis à 8h pour le flash de la rédaction.
Merci Valdemar et donc à tout à l'heure.